Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 13 mars 2025. Voici le sommaire. Des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23 débuteront le 18 mars, a annoncé la présidence angolaise.
Lorsque les Tutsis congolais qui sont en exil exigent de pouvoir rentrer dans leur pays, ça c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être négocié parce qu'il y a une certaine logique là derrière.
Le décryptage de Colette Brackman, journaliste et spécialiste de la région des Grands Lacs, à suivre dans la partie magazine. Le Soudan du Sud est aux portes de la guerre, alerte l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, un groupement régional de 7 pays de l'Afrique de l'Est. Le Canada, la Chine et l'Union européenne ont annoncé hier des représailles pour répondre au nouveau droit de douane américain de 25% sur l'acier et l'aluminium. Le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei juge imprudente les menaces des États-Unis après l'appel de Donald Trump à des négociations sur le nucléaire et de possibles actions militaires en cas de refus. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Les négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 doivent débuter le 18 mars prochain. C'est ce qu'ont annoncé les services du président angolais João Lourenço, qui dirige la cellule des médiateurs africains pour la crise dans l'est de la RDC. Les précisions avec Eddy Isango.
La date a été publiée hier au lendemain de l'annonce des pourparlers directs entre les autorités de Kinshasa et les rebelles du M23. Le président angolais, à la tête de l'Union africaine depuis le mois dernier, a discuté mardi à Luanda de ses négociations directes avec les rebelles, sans donner de date, avec son homologue Félix Tshisekedi, qu'il a reçu. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a confirmé le même soir la rencontre et l'initiative de João Lourenço, mais a rappelé que le chef de l'État angolais agissait en conformité avec la résolution 1773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui intime aux troupes rwandaises et aux rebelles du M23 de se retirer des zones qu'ils contrôlent. Kinshasa refusait jusque-là des discussions directes avec les rebelles qui ont repris leur offensive avec les ratés de la signature d'un accord de paix à Luanda entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame en décembre. Les rebelles ont depuis fait une percée, prenant le contrôle d'une bonne partie de l'Est avec la chute de villes de Goma et Bukavu. 4000 soldats rwandais les appuient, selon les experts de l'ONU. Plus de 7000 personnes ont trouvé la mort dans l'offensive depuis les débuts de l'année, selon Kinshasa.
Le M23 s'en prend aux journalistes, à ses contradicteurs et à la société civile depuis qu'il a pris fin janvier la localité de Goma dans l'est de la RDC, a dénoncé hier mercredi Human Rights Watch. Dans un rapport, Human Rights Watch mentionne notamment un chanteur et militant, Delphin Katembo Viniwasiki, connu sous le nom de Delcat Idengo, qui a été abattu en février à son domicile, ou encore celui de l'activiste Pierre Katemba Biamungu, exécuté sommairement avec 4 autres hommes après du travail forcé pour le M23. Il s'agit d'un rapport biaisé aux allégations infondées, rejeté catégoriquement sur X par Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo dont le M23 fait partie. Il a précisé que la mort du chanteur Idengo résultait de conflits internes entre différentes factions de milices pro-Kinshasa et l'armée congolaise. Le Soudan du Sud est aux portes de la guerre selon l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, un groupement régional de 7 pays de l'Afrique de l'Est. L'accord de paix a été menacé ces dernières semaines par de nouveaux affrontements dans le nord-est du pays. Alexandrine Holognon.
Le bloc des États de l'Afrique de l'Est estime que la série d'incidents récemment enregistrés et la violence cyclique mettent une pression croissante sur l'accord de 2018 et pousse le Soudan du Sud toujours plus aux portes de la guerre. Le 4 mars, environ 6000 combattants de l'armée blanche, un groupe armé réunissant des jeunes de l'ethnie nuer du vice-président Riek Machar, avait pris un camp de l'armée sud-soudanaise. La semaine dernière, un hélicoptère de l'ONU qui effectuait une mission de sauvetage de soldats sud-soudanais a été ciblé par des tirs, tuant un membre de l'équipage et un général sud-soudanais. Plusieurs proches du vice-président Machar ont également été arrêtés. L'Ouganda a annoncé mardi avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser la capitale Djouba et soutenir le président Kiir. Si les tensions s'intensifient, le risque d'une reprise des hostilités généralisées est élevé, selon l'IGAD, qui appelle à la désescalade et à la fin des hostilités. Washington, de son côté, a décidé de rappeler dimanche son personnel non essentiel du pays, car un conflit armé est en cours, selon les États-Unis.
En République centrafricaine, Bangui, la capitale, subit depuis 3 jours une panne du réseau électrique. La direction de l'énergie centrafricaine, ENERCA, a promis dans un communiqué de résoudre le problème dans les meilleurs délais, en précisant que la panne était survenue dans la soirée du 10 mars sur les installations de la sous-station B du quartier Gobongo. Lors d'une visite sur le site, le ministre de l'énergie, Arthur Bertrand Piri, a appelé la population à garder son calme et à faire confiance aux techniciens, selon un communiqué diffusé sur la page Facebook du ministère. Des messages sur les réseaux sociaux reflètent le mécontentement des habitants qui, en cette période de grande chaleur, souffrent aussi, dans certains quartiers, d'une pénurie d'eau. En Sierra Leone, le chef de l'immigration, Alhucine Kané, a été renvoyé par le président Julius Maada Bio quelques heures après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de recevoir un cadeau d'un des trafiquants de drogue les plus recherchés d'Europe. Le président exerce son pouvoir constitutionnel d'embaucher et de licencier qui il veut et l'utilise selon les critères qui relèvent de sa seule prérogative, a indiqué mercredi le ministre de l'Information, Chernor Ba, sans préciser le motif du renvoi. Vendredi dernier, jour du limogeage de M. Kané, le site d'investigation européen Follow the Money a publié une vidéo montrant le chef de l'immigration, Hilar, recevant un cadeau de George Leschdeckers, un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. La scène daterait de l'an dernier, selon le média d'investigation. Le trafiquant néerlandais est considéré par Europol comme l'un des acteurs majeurs du trafic international de cocaïne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Canada, la Chine et l'Union européenne ont annoncé hier des représailles pour répondre au nouveau droit de douane américain de 25% sur l'acier et l'aluminium, ce qui a poussé le président Donald Trump à promettre de nouvelles mesures de rétorsion. Jacques Aristide.
Le Canada, premier fournisseur des États-Unis pour l'acier et l'aluminium, juge les nouvelles taxes injustifiées et déraisonnables. Ottawa a ainsi indiqué que 25% de droits de douane seraient imposés sur près de 30 milliards de dollars canadiens d'importations américaines, concernant notamment les équipements sportifs et les produits en fonte ou les ordinateurs. La Chine affirme de son côté être prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes, même si le marché américain n'est pas essentiel à ses exportations d'acier et aluminium. Quant à la Commission européenne, elle a fait savoir qu'elle allait taxer une série de produits américains allant des bateaux aux bourbons en passant par les motos à partir du 1er avril. Pour sa présidente Ursula von der Leyen, la réplique est forte mais proportionnée. Le représentant à la Maison-Blanche pour le commerce a condamné les représailles européennes. Jamieson Greer est d'avis que Bruxelles est déconnectée de la réalité. Le président américain a lui promis de répliquer. « Nous allons gagner cette bataille financière contre l'Union européenne », a déclaré Donald Trump, ajoutant que les droits de douane à dit réciproques qui doivent entrer en vigueur le 2 avril pourraient être un peu plus que réciproques dans certains cas.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a jugé mercredi imprudentes les menaces des États-Unis. Donald Trump a envoyé une lettre à Téhéran appelant à des négociations sur le nucléaire et avertissant de possibles actions militaires en cas de refus. John Lindon.
Les États-Unis brandissent la menace militaire. À mon avis, cette menace est imprudente, a affirmé l'ayatollah Khamenei lors d'une rencontre avec des étudiants. L'Iran est capable de riposter et infligera sans aucun doute un coup en retour, a-t-il averti. Il s'exprimait alors qu'un média local a confirmé que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait reçu la lettre du président américain remise par le diplomate de haut rang des Émirats arabes unis, Anwar Gargash. Nous avons négocié pendant plusieurs années et cette même personne a jeté l'accord finalisé achevée, signée et la déchirée, a souligné l'ayatollah Khamenei en référence au retrait de Washington de l'accord nucléaire de 2015 lors du premier mandat de Donald Trump, qui s'est achevé en 2021.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Un accord de financement a été trouvé pour l'expansion de Congo Terminal au port autonome de Pointe-Noire. Le projet d'extension du terminal prévoit la construction d'un nouveau quai de 750 mètres de long et d'une profondeur de 17 mètres, permettant ainsi d'accueillir des porte-conteneurs plus grand. L'extension fait partie d'un investissement global de 361 millions d'euros financé sur 3 ans. Le port autonome de Pointe-Noire est le principal point de transit pour les exportations et importations du pays. En Côte d'Ivoire, le Grand Abidjan va bénéficier d'un financement direct de l'IFC, du groupe Banque mondiale, pour la construction de 5600 logements. Ce prêt de plus de 16 milliards de francs CFA est dédié au développement des logements abordables. 4600 logements seront réservés aux familles à revenus moyens et inférieurs et 1000 aux ménages aux revenus modestes. Ici aux États-Unis, les derniers chiffres de l'inflation ont été meilleurs qu'attendus. Les premières surtaxes sur les produits chinois n'ayant pas entraîné de surcoûts pour les consommateurs. L'indice des prix à la consommation, mesurant l'évolution d'un panier de biens et services, a augmenté en février de 2,8% en rythme annuel, contre 3% en janvier, selon le ministère du Travail.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mouamadou, bonjour à tous.
Patrice Motsepe reste président de la CAF. Samuel Eto'o, lui, fait son entrée au sein du comité exécutif de l'instance africaine du ballon rond.
Oui, sans surprise, Patrice Motsepe va effectuer un deuxième mandat de 4 ans comme patron du foot africain après son premier bail débuté en 2021. Seul candidat en liste, le Sud-Africain, propriétaire du club du Mamelodi Sundowns, a été réélu hier par acclamation.
L'une des choses que nous faisons en tant que football africain, c'est de défendre la cause, de persuader, de convaincre, de faire comprendre le gouvernement, au chef d'État qu'investir dans un stade, dépenser de l'argent pour le développement du football, investir dans l'infrastructure du football est extrêmement bénéfique pour le pays, pour les habitants de ce pays et pour le développement économique de l'Afrique.
For the country, for the people of those countries and for the economic development of Africa.
Patrice Motsepe est aussi revenu sur les progrès réalisés selon lui pour faire avancer la construction d'infrastructures sportives aux normes dans les pays membres de la CAF.
You cannot develop football.
On ne peut pas développer le football dans un pays d'Afrique si l'équipe nationale et les clubs ne jouent pas devant leurs supporters, devant leurs fans et devant leur peuple. Nous avons fait de grands progrès. Il n'y a actuellement que 12 nations en Afrique qui ne jouent pas devant leur public. Sur les 37 ou 38 nations qui ne jouent pas dans leur pays, il n'y en a plus que 12.
Patrice Motsepe, patron du foot africain, pour sa part, seul candidat en liste pour la région d'Afrique centrale, l'ex-attaquant et actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o Fils, a été élu par acclamation pour intégrer le comité exécutif de la CAF. Le tribunal arbitral du sport avait ordonné vendredi dernier à la CAF d'accepter sa candidature. La CAF l'avait refusé en janvier, estimant qu'Eto'o avait gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif en devenant l'ambassadeur d'une société de paris sportifs. Eto'o avait fait appel de cette décision auprès du TAS.
L'Égypte a profité de cette assemblée générale de la CAF pour demander à accueillir des matchs du Mondial 2034.
Les pharaons ont été les premiers Africains à avoir disputé la Coupe du monde de football en Italie en 1934. S'adressant à Gianni Infantino, président de la FIFA, présent au Caire, Ani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a dit espérer que l'instance leur accordera à l'occasion du centenaire en 2034 l'honneur d'accueillir et d'organiser l'un des groupes du Mondial 2034. En tant qu'Africain et Égyptien, l'Arabie saoudite sera pleinement capable d'organiser une édition historique de la Coupe du Monde, a-t-il ajouté. Seule candidate, l'Arabie saoudite a été officiellement désignée le 11 décembre organisatrice du Mondial 2034. Le Royaume deviendra ainsi le troisième pays arabe à accueillir la Coupe du Monde après le Qatar en 2022 et le Maroc en 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. L'Angola a annoncé que des négociations directes entre le M23 et Kinshasa débuteront le 18 mars. Une annonce intervenue après une visite mardi à Luanda du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui refusait jusqu'ici de discuter avec ce groupe armé. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles Colette Brackman, journaliste belge et spécialiste de la région des Grands Lacs.
Il y a certains points, à mon avis, qui pourraient être réglés assez facilement parce qu'il s'agit du droit des gens. Lorsque les Tutsis congolais qui sont en exil exigent de pouvoir rentrer dans leur pays, ça c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être négocié parce qu'il y a une certaine logique là derrière. Si c'est par contre un accord politique avec un mouvement qui relaye le point de vue d'une puissance extérieure qui est le Rwanda, là ce sera plus compliqué. Non seulement pour le pouvoir de Kinshasa qui sera désavoué par la population, mais même par l'opinion internationale, les organisations internationales. Ça, c'est une autre question.
Il y a eu plusieurs négociations de paix depuis 30 ans. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ce conflit d'une façon définitive pour retrouver la RDC d'avant ce conflit?
Je crois que la seule solution, mais on n'y est vraiment pas, c'est un pouvoir fort. Personnellement, j'ai toujours critiqué le pouvoir du président Mobutu, mais il faut reconnaître que de son temps, ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées parce qu'il y aurait eu un rapport de force tel qu'on ne se serait pas attaqué à un pays important, puissant, riche comme le Congo. Alors que maintenant, si des pays voisins peuvent se le permettre, c'est parce que le pouvoir en place à Kinshasa a été affaibli. Il a été affaibli par les guerres, il a été affaibli par des situations de compromis politiques, il a été affaibli lui-même par ses erreurs, par la corruption du régime, par son népotisme. Donc il faut un pouvoir représentatif et assez fort qui correspond à la réalité matérielle de cet immense pays au cœur de l'Afrique.
Il y avait aussi un livre mouvement des biens et des services. Aucune communauté n'était pas inquiétée à l'époque.
Voilà, du temps du président Mobutu, il y avait un mouvement. Les gouverneurs, par exemple, pouvaient être nommés, n'étaient jamais nommés dans leur province d'origine. Ils étaient nommés dans d'autres provinces afin de connaître toutes les réalités du pays. On essayait d'éviter le régionalisme, le népotisme, bien sûr, il y avait la corruption du régime qui a été bien souvent dénoncée, mais il y avait aussi cette création d'un sentiment national et de veiller à ce qu'aucune communauté ne soit tenue à l'écart et ne soit considérée comme étrangère. Et je pense qu'il faut rappeler que du temps de Mobutu aussi, les Tutsis congolais n'étaient pas discriminés. C'était de tous les pays de la région. C'était les exilés du Rwanda qui se retrouvaient au Congo, où les communautés Tutsis rwandophones vivant au Congo n'étaient pas discriminées. La discrimination est venue avec le mouvement de démocratisation, avec la conférence nationale souveraine au début des années 90, lorsque les ressortissants du Tutsi du Kivu n'ont pas été admis à la conférence nationale. Mais ça n'était pas le fait du régime Mobutu, c'était le fait d'un processus de démocratisation et d'ethnisation de la vie politique au Congo qui s'est prolongé jusqu'aujourd'hui.
Colette Brackman, journaliste belge et spécialiste de la région des Grands Lacs.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Et pour rester sur la situation dans l'est de la RDC, rappelons que c'est depuis 2021 que le M23 a repris les armes contre le gouvernement de Kinshasa, gagnant du terrain dans le nord Kivu et le sud Kivu. Le groupe rebelle s'est emparé de vastes territoires riches et fertiles dont il a commencé à tirer profit pour financer son effort de guerre. Michel Joseph nous en dit davantage.
Ravagé par les conflits depuis 30 ans, l'Est de la RDC détiendrait entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan, minerai dont est issu le tantale, essentiel à la fabrication des équipements électroniques modernes. Des creuseurs comme Willy Guillet continuent leurs activités malgré le conflit qui fait rage dans l'est du pays.
Ici, où nous nous tenons debout, nous creusons la cassiterite. Là, devant moi, nous exploitons le manganèse et le coltan. À Kakome, nous creusons également le manganèse et le coltan, et ainsi de suite. Je dois dire qu'à Rubaya, nous exploitons la cassiterite, la tourmaline, le colcé, le manganèse et le coltan.
Le joyau de la couronne est la mine de Rubaya, dans le nord Kivu, la plus grande mine de coltan de RDC, sous contrôle du M23 depuis avril 2024. Hategeka Jean exploite cette mine depuis 2019.
J'ai commencé le travail de creuseur en 2019, alors que j'étais encore très jeune. Aujourd'hui, pour creuser, nous devons d'abord creuser des gradins, puis descendre dans la mine pour extraire les pierres précieuses.
Après avoir appelé la population au calme, le M23 entame une campagne de recrutement dans les zones qu'il contrôle.
Le travail de creuser est bénéfique, mais tout dépend de la manière dont on l'exerce. Avec le temps, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Et ce métier ne permet plus de subvenir à mes besoins. C'est pourquoi j'ai pris la décision de rejoindre le M23 pour défendre mon pays.
Les experts de l'ONU estime que les gisements de Rubaya rapportent environ 800 000 dollars par mois au M23 grâce à une taxe de 7 dollars par kilo prélevée sur la production et le commerce du coltan.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
L'ancienne star camerounaise Samuel Eto'o a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était mercredi au Caire. Seul candidat pour la région d'Afrique centrale, l'ex-attaquant et actuel président de la Fédération camerounaise, âgé de 44 ans, a été élu par acclamation. Le tribunal arbitral du sport avait ordonné vendredi dernier à la Confédération africaine d'accepter la candidature d'Eto'o à son comité exécutif. John Lyndon s'est entretenu avec Jean-Bruno Tagné, journaliste sportif et écrivain.
C'est une très très bonne chose pour lui, surtout que ce n'était pas gagné, parce que vous vous souvenez que sa candidature avait d'abord été rejetée par la CAF et la CAF a été finalement obligée de réintégrer sa candidature à la suite d'une décision du tribunal arbitral du sport. Donc j'imagine que pour Samuel Eto'o, ça doit être un très très grand soulagement. Et en ce qui concerne le Cameroun, c'est une bonne chose d'avoir un Camerounais au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Samuel Eto'o va remplacer Seydou Mbombo-Ndjoya et c'est une bonne chose pour le pays.
Vous le disiez tantôt, pour obtenir dans cette élection, il est allé, Samuel Eto'o, jusqu'au TAS, n'est-ce pas? La CAF avait, dans un premier temps, refusé sa candidature, l'accusant d'avoir gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif en devenant l'ambassadeur d'une société de paris sportifs. Maintenant qu'il est au sein du comité exécutif, vous pensez que Samuel Eto'o pèsera de quel poids désormais sur les décisions de cette institution et quelle pourrait en réalité être sa contribution?
Alors d'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un de très très ambitieux et donc il faut s'attendre à ce qu'il ne se contente pas simplement d'être un membre du comité exécutif comme les autres. Il va essayer de mettre en valeur sa notoriété pour essayer de prendre un peu plus de place au sein de ce comité exécutif de la CAF. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va se contenter d'être un membre du comité exécutif comme les autres, non. C'est quelqu'un qui est habitué à se battre, qui ne s'avoue jamais vaincu, et l'histoire de son élection même au sein de ce comité exécutif en est la parfaite illustration. Donc il faut s'attendre à ce qu'il devienne l'une des figures les plus en vue de ce comité exécutif. Parce que quand vous regardez ce comité exécutif, il n'y a pas quelqu'un qui a son niveau de célébrité. Donc forcément, il va chercher à s'imposer de toutes les façons au sein de cette instance.
Jean-Bruno Tagné, on ne le mentionne pas très souvent, vous avez été directeur de campagne de Samuel Eto'o lorsqu'il s'engageait donc à la course à la FECAFOOT. Vous avez écrit deux livres sur Samuel Eto'o, Programmé pour échouer et puis L'arnaque. Vous pensez toujours que vous avez écrit à propos de Samuel Eto'o ou alors vos idées ont changé?
Non, je pense qu'il y a une petite correction à faire. Programmé pour échouer, c'était sur les lions
indomptables
et non pas sur Samuel Eto'o. L'arnaque, c'est effectivement sur Samuel Eto'o, et c'est un livre que j'ai publié l'année dernière qui faisait un peu le bilan de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération Camerounaise de football. Et aujourd'hui, les faits me donnent tellement raison que si j'avais à réécrire ce livre, je l'écrirais exactement de la même manière.
Jean-Bruno Tagné, journaliste sportif et écrivain. L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site web voaafrique.com.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les îles Chagos sont l'un des derniers vestiges de l'Empire britannique. Elles abritent actuellement une importante base militaire américaine. Mais sous la pression des Nations Unies, la Grande-Bretagne semble prête à transférer la souveraineté des îles à l'île Maurice. Les critiques affirment que cet accord compromettrait la sécurité de la région face à une menace croissante de la Chine, comme le rapporte Henry Ridgewell depuis Londres. Le récit est de John Lyndon.
Située à environ 2500 km à l'est de Madagascar, les îles Chagos sont une colonie britannique depuis 1814. Elles étaient administrées depuis l'île Maurice, qui affirme avoir été contrainte illégalement de les céder en échange de son indépendance en 1968. La Grande-Bretagne a expulsé de force la population des îles Chagos dans les années 1960 et 1970 pour faire place à une base militaire américaine sur Diego Garcia, l'une des plus grandes îles de l'archipel. En 2019, la Cour internationale de justice a statué que la Grande-Bretagne devait céder le contrôle des îles à l'île Maurice. Aujourd'hui, Londres cherche à finaliser cet accord. Le premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré aux parlementaires le mois dernier qu'il était essentiel d'assurer l'avenir de la base militaire américaine.
Sans sécurité juridique, la base ne peut pas fonctionner comme elle le devrait en pratique. Cela nuit à notre sécurité nationale et c'est un cadeau pour nos adversaires.
Selon diverses sources, la Grande-Bretagne céderait la souveraineté des îles Chagos et verserait environ 116 millions de dollars par an pendant 99 ans à l'île Maurice, en contrepartie d'un bail permettant aux États-Unis de maintenir la base militaire sur Diego Garcia. Le président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'il était enclin à approuver l'accord. L'accord bénéficie également du soutien de l'Inde, qui entretient des liens étroits avec l'île Maurice. Mais des préoccupations sécuritaires subsistent. Le Parti conservateur britannique, actuellement dans l'opposition, a qualifié le projet de désastre stratégique pour la Grande-Bretagne. La Chine entretient une relation économique grandissante avec l'île Maurice et certains craignent que ces liens ne compromettent la base américaine de Diego Garcia. Evan Fowler, membre de l'Inter-Parliamentary Alliance of China, une organisation qui surveille les menaces en provenance de Pékin, s'inquiète.
L'île Maurice doit beaucoup à la Chine et Pékin utilise cela pour obtenir un avantage politique. Cette zone est stratégiquement importante pour nous et les Chinois en sont bien conscients. Ils ont déjà été actifs militairement autour des îles Chagos.
Après leur expulsion, de nombreux Chagossiens se sont installés à l'île Maurice. Des milliers d'autres ont immigré en Grande-Bretagne. Selon les termes de l'accord, les Chagossiens et leurs familles pourraient retourner sur les îles extérieures de l'archipel, mais Diego Garcia resterait interdit d'accès. Les Chagossiens sont impatients de rentrer chez eux, mais ils semblent impuissants alors que des forces géopolitiques influencent les négociations sur l'avenir de ces îles.
Merci John Lyndon et c'est avec cet élément que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.